Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 14. Nous vîmes une deuxième fois la panthère par un matin de neige. Nous étions sur les crêtes de calcaire au débouché austral du vallon, au-dessus d'une arche percée de rafales. Nous avions pris nos postes à l'aube. Le vent nous giflait le visage. Munier restait stoïque, impeccablement rivé à ses œilletons. Sa vie intérieure s'alimentait du monde extérieur. La possibilité d'une rencontre anesthésiait en lui toute douleur. La veille, il m'avait parlé de ses proches. Ils me prennent pour un névrosé. Je regarde passer une citelle pendant que se déroulent des choses cruciales. Je lui avais répondu que la névrose se situait au contraire dans la diffraction de nos cerveaux affolés d'informations. Prisonniers de la ville, nourris du perpétuel jaillissement de nouveautés, je me sentais un homme diminué. La fête foraine battait son plein, la lessiveuse tournait, les écrans scintillaient. Jamais je ne me posais la question « En quoi le vol des cygnes serait-il moins intéressant que les tweets de Trump ?» Moi, pour me soutenir pendant les heures d'affût, je plongeais dans les souvenirs. Je me transportais l'année d'avant sur les plages du canal du Mozambique, ou bien me souvenais d'un tableau du musée du Havre, ou encore me figurais un visage aimé. Puis j'entretenais ces images. Elles étaient fragiles, flamèches sous la pluie. L'esprit flottait, fixant le fanal. Ce n'était pas une rumination très intense. Le temps finissait par passer, malgré l'inconfort. Plus tard, quand le soleil éclairait le monde, ces visions fondaient. Des chèvres bleues s'étaient attribuées le vallon à notre hauteur, sur l'autre rive. Le soleil monta par-dessus les crêtes. Toutes les bêtes d'un même mouvement s'étaient tournées vers la lumière. Si le soleil était Dieu, il devait considérer les animaux comme des fidèles plus fervents que les hommes, entassés sous des néons, indifférents à ses gloires. La panthère déboucha sur l'arête. Elle descendit vers les barrales. Elle avançait, plaquée au sol, d'une foulée retenue, chaque muscle convoqué, chaque mouvement maîtrisé, mécanique parfaite. L'arme de destruction massive avançait à pas mesurés vers le haut sacrifice de l'aube. Son corps coulait dans les blocs. Les chèvres bleues ne la voyaient pas. Ainsi chasse la panthère, usant de surprise. Trop lourde, incapable de rattraper une proie à la course, elle n'est pas le guépard de la savane africaine, elle mise sur le camouflage, s'approche de ses proies contre le vent et saute d'un bond de plusieurs mètres. Les militaires appellent « fulgurance » cette tactique du déchaînement et de l'imprévisibilité. Si l'effet est réussi, l'ennemi, même plus nombreux ou plus puissants, n'a pas le temps d'opérer ses défenses. Surpris, il est vaincu. Ce matin-là, l'attaque échoua. Une chèvre bleue détecta la panthère et sa convulsion alerta l'ensemble du troupeau. À ma surprise, les caprins ne s'enfuirent pas, mais se tournèrent vers le fauve, de face, pour lui signifier que l'approche était éventée. Surveiller la menace protégeait le groupe. Leçon donnée par les chèvres bleues. Le pire ennemi est celui qui se cache. Panthère démasquée, fin de partie. Elle traversa le vallon sous l'œil des Barrales qui, sans la lâcher du regard, se contentait de reculer de quelques dizaines de mètres pour la laisser passer. Si le fauve faisait un seul mouvement, les herbivores s'égailleraient dans les pierriers. L'once fendit le groupe, grimpa dans les blocs, gagna l'arête, apparut encore une fois, découpée dans le ciel, puis disparut de l'autre côté de la crête. Nous la revîmes avant la tombée du soir dans les mâchicoulis de la crête. Elle était étendue, s'étira, se releva et s'en alla d'un pas chaloupé. Sa queue fouetta l'air et se figea, dessinant un point d'interrogation. Conserverai-je mon royaume devant l'avancée de vos républiques ? Elle disparut. Elle passe une grande partie des 8 années de leur existence à dormir, dit Munier. Elle chasse, si une occasion se présente, elles se gobergent, puis tiennent une semaine sur les réserves. Mais le reste du temps, elles somnolent, 20 heures par jour parfois. Elles rêvent, qui sait. Et quand elles fixent le lointain, contemplent-elles le monde ? Je le crois, dit-il. Souvent, dans les calanques de cassis, j'observais les escadres de goélands et me demandais « Les bêtes regardent-elles le paysage ?» Les oiseaux blancs, ultra sapés, tenaient le surplace par-dessus le soleil couchant. Ils n'étaient jamais sales, plastrons immaculés, ailes nacrées. Ils coupaient l'air sans un battement, surfant sur les couches atmosphériques pendant que l'horizon rougeoyait. Ils ne chassaient pas. Ils paraissaient au spectacle, contredisant le dogme de leur soumission au seul mécanisme de la survie. Même le plus rationaliste des hommes n'aurait pu refuser le sens du beau à ces animaux. Appelons sens du beau la conviction jouissive de se sentir en vie. La panthère alternait entre les campagnes carnassières et les siestes délicieuses. Une fois rassasiée, elle s'étendait sur les dalles de calcaire et je la soupçonnais de rêver à des plaines de viande fumante disposées pour elle, où elle n'aurait plus à bondir pour gagner sa part. Demain, pour un 15e extrait.